Vous écoutez, on lit pour vous.
Injustice caniculaire, les écarts de température entre les quartiers de Montréal. Un texte de Jean Bourbeau, paru le 20 juin 2024 dans Urbania. Enquête sur les disparités climatiques de la métropole. Facho en tabarnak, me lance sans grande originalité un gars de la voirie grillant une smoke dans le Chinatown. J'ai pas de clim dans le truck, je me sens comme Ace Ventura dans le rhinocéros, lance quant à lui un livreur cinéphile dont la référence colle bien au brasier des derniers jours. Si la ville est effectivement en train de fondre, je dois toutefois vous confier qu'une part de moi a toujours aimé les périodes de canicule. C'est sûrement ma nordicité qui parle, enviant la moiteur tropicale du sud, mais quelques fois par année, je n'ai rien contre le fait de me sentir comme dans Sea Dade de Deus ou Do the Right Thing pour continuer l'analogie filmique. Cependant, les changements climatiques et l'éco-anxiété qui en résultent ont terni ce qu'il y avait de mieux au Québec, l'été. Les vagues de chaleur, autrefois célébrées, suscitent désormais l'inquiétude en raison des fournaises urbaines et des feux de forêt, miroir irréfutable d'une planète en ébullition. En parlant du Québec, est-il raisonnable d'admettre que l'horizontalité du froid est plus grande que celle de la chaleur? J'ai l'impression que les différentes classes sociales de Montréal vivent une expérience plus homogène en janvier qu'en période de canicule. Selon les dires, les plus fortunés subiraient une fièvre moins intense grâce à un meilleur accès à la climatisation, des quartiers à la verdure abondante et une densité de population moins élevée. Mais est-ce vraiment le cas? Pour tenter d'y répondre, pourquoi ne pas explorer la métropole en visitant autant ses quartiers défavorisés que ses plus aisés, ses îlots de chaleur et ses parcs, pour voir si ce mythe d'injustice climatique est bien réel ou si tout le monde souffre de cette chaleur extrême de la même manière. Mercredi, le 19 juin, entre midi et 17 heures, au plus fort de l'enfer, la température ressentie devrait se maintenir à 43 degrés avec des vents et un taux d'humidité relativement stable. Une fenêtre idéale pour mener à bien notre expérience maison. Celle-ci débute par un arrêt au Canadian Tire Bellechasse, souvent qualifié du plus folklorique en ville, pour y faire l'achat d'un thermomètre électronique. En naviguant parmi les modèles allant de 2,99 $ à 124,99 $, j'espère juste que celui que je choisis donnera des lectures assez précises pour garantir la valeur de cette expérience simili-scientifique. Après une série de tests, je constate que mon petit thermomètre est fiable, s'accordant avec d'autres mesures et affichant également l'humidité, une variable cruciale pour comprendre la violence de l'actuelle canicule. Le périple débute au parc Outremont, niché au cœur du quartier éponyme, un havre de paix avec son petit lac, ses enfants propres et ses arbres majestueux. Nous sommes bien à Outremont. Première entrée, le mercure grimpe à 34 degrés Celsius. Prochain arrêt, tout près devant les touristes de Saint-Viateur Bagel. Un degré de plus au thermomètre, mais une baisse considérable de l'humidité. Ah oui, j'oubliais. Pour cette expédition hautement scientifique, j'ai fixé le thermomètre avec de la gommette sur le guidon d'un Bixi, transformant ainsi mon vélo en station météorologique sur deux roues, permettant un visuel en continu des variations. En déambulant dans Parc Extension, un quartier réputé pour ses îlots de chaleur, la température est comparable à celle du fourneau du Maryland, et ce, jusqu'à la métropolitaine. Ici, le long du trafic, le mercure atteint un nouveau pic à 36 degrés. Il redescend légèrement à 35 degrés dans le quartier industriel d'Ahuntsic, pauvre en verdure et riche en asphalte brûlante. Une femme en boubou malien essuie les gouttes qui coulent le long de ses joues en attendant l'autobus. Une pause au parc Frédéric-Bac pique ma curiosité. Bien qu'il soit désormais un parc, il demeure un ancien dépotoir avec ses ballons géants captant le gaz qui s'en échappe. Un lieu parfait pour enregistrer une chaleur intense, 36 degrés, encore un degré de plus. En continuant vers le nord, l'écran affiche un sommet de 37 degrés en arpentant Saint-Michel. C'est quand même 3 degrés de plus qu'à Outremont. Mauvaise journée pour couler du ciment? Demandai-je en plaisantant à 3 ouvriers en sueur. Ceux-ci s'esclaffent, torse nu sous leur dossard. Raw dog, mon chum, pas de crème solaire, lance l'un d'entre eux, le visage écarlate sur cette avenue anonyme où les climatiseurs dégoulinent. Un détour par le Dairy Queen sur Jarry offre une agréable surprise. Une baisse de température d'un degré. Frisquet. Ombrelle, éventail au visage, vieillard trouvant refuge à l'ombre d'un arbre. La canicule a le pouvoir d'altérer le quotidien, de nous faire ralentir. On porte moins de vêtements, on marche plus doucement, on se permet un Mr. Freeze ou une bière de plus. Il n'y a pas que de la torture. Journée maillot de bain dans la cour pour une école du plateau. Les plus beaux souvenirs. La place Simon-Valois au cœur d'Hochelaga présente une diminution plus marquée de 3 degrés, un îlot de fraîcheur inattendu, bien que le passage d'un camion gorgé de compost ne soit guère agréable. De Berry-UQAM jusqu'au Vieux-Montréal, la température demeure à notre moyenne quotidienne de 35 degrés. Elle baisse légèrement le long du canal Lachine, 34, pour atteindre un nouveau plancher de 33 degrés dans les hauteurs de Westmount, où des jeunes vendent des Gatorade rouges à 4 $. Je me suis fait prendre. De retour à 35 degrés le long de Descaries, une terre sans ombre où je croise un chien épuisé, la langue pendante. Jusqu'au Myland, la température est la même qu'au départ. L'expérience, aussi boboche soit-elle, tire à sa fin. 45 kilomètres, 6 bixi et un 3/4 d'insolation. Météo média, si jamais je suis là. De côte des neiges aux cabanes sur la montagne, les conclusions de mon étude extérieure restent floues, mais une tendance se dessine. Chaque fois que je me suis retrouvé à proximité de zones encombrées de véhicules, la métropolitaine, les accès au pont Jacques-Cartier ou l'autoroute 15, la température atteignait les plus hauts pointages. Une évidence qui, sans prétendre au Nobel, illustre clairement les défis auxquels nous sommes confrontés. Malgré la chaleur étouffante, dans les rues, les gens sourient, échangent des mots, plaisantent de la catastrophe. Que l'on soit nanti ou mal pris, la journée la plus chaude a de quoi rassembler. C'était Injustice caniculaire, les écarts de température entre les quartiers de Montréal, un texte de Jean Bourbeau paru le 20 juin 2024 dans Urbania.
Partir l'esprit tranquille, un guide pour une fin de vie bien préparée. Un texte de Gwendoline Lebeaumain, paru le 30 mai 2024 dans l'Aurore boréale du Yukon. En avril dernier, le Service des personnes aînées de l'Association franco-yukonaise, AFY, a publié « Partir l'esprit tranquille », un guide sur la préparation de fin de vie. Bien que cette tâche soit souvent mise à plus tard, ce guide invite à s'y pencher afin de bien se préparer et de simplifier les choses quand se présentera l'inévitable. En plus du guide, que l'on peut retrouver en version papier à l'AFY, le public peut consulter un gabarit en ligne. Ce gabarit détaille tous les renseignements à collecter et les décisions à prendre avant le décès. Il peut être rempli à l'ordinateur ou bien être imprimé en version papier. Patricia Brennan, ancienne gestionnaire au service des personnes aînées à l'AFY, et dorénavant retraitée, est à l'origine du projet. En plus de la recherche en ligne, elle s'est basée sur des expériences vécues pour faire un gabarit qu'elle voulait exhaustif. Il aura fallu quasiment un an pour mener à bien ce projet. Une tâche parfois ardue. Patricia Brennan reconnaît qu'elle ne s'attendait pas à devoir penser à autant de choses pour organiser sa fin de vie. Elle avoue avoir dû aller à la recherche de certains documents requis dans le guide, égarés au fil des années. Même constat pour Philippe Cardinal, jeune retraité. Les démarches lui ont pris environ 6 mois, mais il y a encore quelques petites affaires qu'il doit aller chercher. De plus, citation, les démarches diffèrent d'une province à l'autre. Donc, par exemple, si ta famille au Québec arrive ici pour s'occuper de tes affaires, elle va être un peu désorientée. Fin de citation, avise l'ancienne gestionnaire. Philippe Cardinal a souhaité préparer le maximum de choses pour son fils, exécuteur testamentaire, car ce dernier ne vit pas au Yukon. Il ne connaît donc pas les démarches propres au territoire. Devant l'ampleur de la tâche, Patricia Brennan conseille de remplir le gabarit petit à petit et de ne pas hésiter à demander de l'aide en s'adressant à la FY. Le guide d'accompagnement offre aussi, dans ses dernières pages, un bon nombre de ressources, telles que le Yukon Legal Services Society. Julie Croquisson, gestionnaire en justice et en veille stratégique à la FY, est aussi une bonne personne ressource. Citation : un agent ou une agente de Service Canada pourrait vous aider à répondre à vos questions concernant votre pension. Votre banque peut être aussi une source d'informations très utile pour savoir ce qui doit être fait lorsque vous mourrez. Fin de citation, ajoute Patricia Brennan. Pour les personnes aînées, mais pas seulement. Un décès peut survenir à n'importe quel moment et la préparation concerne tout le monde sans regard de l'âge, rappelle Patricia Brennan et Cynthia Malouin, avocates travaillant principalement dans les domaines de l'immobilier et des testaments et successions. Citation : le gabarit est un document que tout le monde devrait remplir. Fin de citation, suggère Patricia Brennan. L'idéal serait de le garder à jour au fil du temps. Citation : parce que tu ne sais pas quand tu vas partir ou quand tu vas être malade ou que tu vas vraiment être mal en point et que tu vas avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Ellipse. J'ai vu au cours des années des situations assez dangereuses. Fin de citation, tient-elle à rappeler. Elle ajoute que, citation, c'est un document pratique pour les personnes de tout âge parce que c'est justement quelque chose qui peut servir de ton vivant, comme le fonctionnement de ta maison, l'arrosage de tes plantes, etc. Ça peut servir quand tu es hors du territoire. Ça a un aspect très pratique. Fin de citation. Préparer son testament. Concernant le testament, Cynthia Malouin conseille de se préparer en avance, peu importe son âge et sa situation. Avoir un testament et nommer une exécutrice ou un exécuteur testamentaire sont deux choses importantes selon elle. Citation : ça permet aux gens de décider à qui ils veulent léguer leurs biens. S'ils n'ont pas de testament, la loi va décider pour eux. Ça permet de nommer un exécuteur ou une exécutrice testamentaire qui va s'occuper de gérer leur succession. Fin de citation, explique-t-elle. Elle ajoute qu'il est important aussi de nommer une personne pour qu'elle obtienne une procuration perpétuelle. Celle-ci, citation, va s'occuper de vos biens, gérer vos affaires financières si jamais vous devenez mentalement incapable. C'est quelque chose d'important non seulement en vieillissant, mais également si vous êtes victime d'un accident, par exemple. À ce moment-là, cette personne a le pouvoir de gérer vos comptes ou de vendre votre maison. Fin de citation. L'avocate conseille également de rédiger un testament lors de l'arrivée des enfants afin de, citation, prévoir en conséquence qui va s'occuper des enfants, comment on veut que l'argent soit géré en attendant qu'il et elle atteignent l'âge de la majorité. Fin de citation. Citation : la loi ne prend pas en compte les couples qui ne sont pas mariés. Donc, si jamais une personne est en relation d'union de fait, la loi ne prévoit rien pour elle. Si une personne décède, puis qu'elle n'a pas d'enfant ou qu'elle n'est pas mariée, tout va aller à ses parents. Le conjoint ou la conjointe de fait n'aura rien. Le testament est important si la personne souhaite que sa succession soit léguée à son conjoint ou à sa conjointe de fait. Fin de citation, signale-t-elle. Cynthia Malouin ajoute qu'il est possible de faire vérifier son testament par une avocate ou un avocat pour assurer sa validité. Citation : On suggère également de donner une copie à la personne qui est nommée exécuteur ou exécutrice si jamais il y a quoi que ce soit qui arrive, ou de le mettre dans un coffret à la banque, par exemple, et de le partager aux gens qui sont concernés. Fin de citation, indique l'avocate. C'était « Partir l'esprit tranquille, un guide pour une fin de vie bien préparée ». Un texte de Gwendoline Lebeaumain, paru le 30 mai 2024 dans l'Aurore boréale du Yukon.
Déconstruire les mythes sur la communauté de SLGBTQIA+, au sein de la francophonie, un texte de Suzanne Leanhart, paru le 11 juin 2024 dans le journal La Source, en Colombie-Britannique. La Boussole, l'organisme communautaire francophone de services sociaux de Vancouver, a organisé un atelier avec l'association Franco-Queer pour sensibiliser sur les luttes de SLGBTQIA+. Entre déconstruction des préjugés et réflexion linguistique, la rencontre a aussi permis aux participants de témoigner de leurs expériences personnelles. Ceux qui n'acceptent pas la communauté la réduisent à l'acte sexuel et c'est vraiment difficile, souligne Laurent dans les premières minutes de l'atelier. Certains disent que dans notre culture, ça n'existe pas, que c'est une invention, ajoute son voisin. Assis autour d'une table en demi-cercle, les 7 participants égrènent tour à tour les préjugés qui collent à la communauté de SLGBTQIA+. Ils se sont réunis à la Boussole pour suivre un atelier en partenariat avec l'association Franco-Queer de l'Ouest. Cette dernière a pour mandat de mener le dialogue sur les enjeux de la diversité sexuelle et de genre pour les personnes d'expression française en situation minoritaire en Alberta, Colombie-Britannique, Saskatchewan, Yukon et les territoires du Nord-Ouest. En ce jour du 11 juin, l'objectif est de discuter des micro-agressions et du mégenrage que peuvent subir les membres de la communauté de SLGBTQIA+. C'est une thématique que l'on a à cœur, parce qu'on veut être le plus inclusif possible et qu'on retrouve cette intersectionnalité dans tous nos combats, pose Nathalie Astruc, gestionnaire des programmes culturels et communautaires de La Boussole. Une réflexion linguistique. Sur les tables, des autocollants mentionnant les pronoms « il », « elle » et « yel » sont mis à disposition du groupe. Une fois les règles d'or posées, comme la nécessité de respecter la bienveillance et la confidentialité des échanges, l'animatrice de l'atelier, Amélia Simard, démarre par l'explication de l'acronyme de SLGBTQIA+. Les échanges autour des définitions durent une quarantaine de minutes. Aromantique, pansexuel, intersexe, toutes les lettres, illustrations de la diversité sexuelle et de genre sont décortiquées jusqu'au mot « queer », dont la traduction littérale est étrange. La communauté veut l'inclusivité, mais se définit comme étrange, c'est paradoxal. Se questionne Florent, un Français vivant à Vancouver. Le mot péjoratif a été repris à son compte par le mouvement des gays dans les années SIDA pour revendiquer leur existence, explique Amélia, agente de développement communautaire au comité franco-queer. Je pense que ça permet de dire que l'on n'est pas hétérosexuel sans mettre une autre étiquette spécifique derrière, ajoute une participante. Au fil des discussions, le nom transsexuel est mis sur la table. Son utilisation est évitée aujourd'hui car trop réducteur à la chirurgie des parties génitales. Autant d'exemples qui montrent comment l'évolution du langage accompagne les mœurs sociétales et permet de déconstruire les préjugés. Savoir répondre aux préjugés. Second objectif de l'atelier, devenir un allié. Amélia invite les participants à réfléchir à la manière de répondre au discours qui affirme que les personnes queer sont apparues récemment. Elle explique notamment que dans les cultures autochtones, les personnes autorisées à endosser les rôles à la fois masculins et féminins dans les rites spirituels ont toujours existé et ont d'ailleurs une place respectée. Sur d'autres sujets, elle utilise aussi des comparaisons pour permettre de répondre aux idées reçues. Saviez-vous qu'il y a 2% de personnes intersexes dans le monde? C'est autant que de personnes aux cheveux roux. Au fil des discussions, la confiance s'installe et les récits personnels se partagent. En France, je voulais vraiment avoir le pouvoir de choisir les personnes à qui je disais que j'étais homosexuelle, parce que ça pouvait avoir des conséquences importantes sur ma vie professionnelle, témoigne l'un d'eux, la trentaine. Encore beaucoup de travail au sein de la francophonie. Au-delà des réflexions linguistiques, c'est finalement les questions sociétales qui clôturent l'atelier. Une participante exprime son inquiétude au sujet de la chirurgie de changement de sexe et du consentement des enfants. « Je vais juste préciser les faits », pose Amélia. En Amérique du Nord, les enfants ne peuvent pas avoir recours à la chirurgie de la poitrine ou des parties génitales. Je peux témoigner aussi que les services de Transcare BC, service de santé à destination des personnes transgenres, suivent de très près les personnes avec l'aide d'une psychologue. L'agente le reconnaît, les conditions pour la communauté 2SLGBTQIA+, en Colombie-Britannique, sont plutôt favorables, mais elle estime qu'il y a encore beaucoup de travail au sein de la francophonie et que les droits ne sont jamais totalement protégés. Le récent projet de loi de la province de la Saskatchewan qui a imposé le consentement parental pour le choix de nom ou de pronom par des enfants de moins de 16 ans l'a bien montré. C'était déconstruire les mythes sur la communauté 2SLGBTQIA+, au sein de la francophonie, un texte de Suzanne Linhart, paru le 11 juin 2024 dans le journal La Source en Colombie-Britannique.
J'ai été Donald Sutherland. Un texte de Marc Dauphin, paru le 25 juin 2024 dans la presse. Marc Dauphin est ex-urgentologue, ex-militaire et maintenant écrivain. Voici son témoignage. À Donald Sutherland. Dans les années 1990, nos regards se sont rencontrés à quelques reprises à Sherbrooke, mais je n'ai jamais osé t'aborder. Logique. Je n'avais rien à voir dans ta vie, même si tu avais eu beaucoup à voir dans la mienne. Nous n'avons donc eu aucune interaction, toi et moi. À part les quelques coups de tête que nous nous sommes envoyés, comme pour nous signifier que nous savions que l'autre existait. Alors voilà, tu n'as rien connu de moi, et après que, inspiré par toi, j'eus réalisé mon rêve de jeunesse, je ne t'ai plus jamais rencontré. Là, je te l'aurais dit certainement que je t'avais joué dans la vraie vie. Que j'avais été toi, le gars qui avait chamboulé ma vie. J'avais 17 ans lorsque je te vis jouer un chirurgien décontracté de l'armée américaine en pleine zone de guerre. J'avais été bouleversé par ces images de la guerre de Corée. Tes facéties, ta compétence et ta résilience m'avaient tellement impressionné que je me souviens m'être dit que sauver des vies en théâtre de guerre habillé en chemise hawaïenne était la plus noble activité possible. Quelques décennies plus tard, je me suis retrouvé à l'été 2009 responsable d'un hôpital de guerre en Afghanistan, à un moment où cet hôpital était le centre de traumatologie le plus occupé de la planète. J'étais aussi le chef trieur, responsable des salles de réanimation lorsque survenaient des blessés multiples. Pas mal pour un ticu de Québec. Un souvenir au milieu du chaos. Un samedi soir, le personnel avait organisé un party hawaïen. C'est ce soir-là que nous fûmes frappés comme rarement. Les blessés nous arrivaient sans répit, des membres arrachés, des poitrines perforées, des visages emportés, déchiquetés. Bientôt, nous fûmes débordés. Mes salles d'opération toutes occupées, mes lits d'unités de soins intensifs pleins et mes civières de réanimation toutes accaparées. C'est alors que les participants du party hawaïen se sont mis à rentrer au travail pour nous aider. Des médics, des chirurgiens et des infirmières en chemise hawaïenne au milieu du chaos, des cris, de l'odeur du sang et des tripes. Comme dans ton film. En prenant soudain conscience de la scène qui se déroulait devant mes yeux, le souvenir m'est brutalement revenu de cette journée de 1970 où un petit gars assis dans un cinéma avait rêvé un jour de t'imiter. D'un coup, mon cœur de vieux soldat, j'avais 56 ans à l'époque, un cœur dur comme le roc, immunisé contre toute cette souffrance humaine, blasé par des mois de combat contre la mort sous les attaques de roquettes, a versé une larme. Était-ce la pression inouïe d'être à la barre de ce navire fou? Était-ce l'émotion de toutes mes décennies aux urgences, une émotion si longtemps refoulée, enfermée dans un coffre-fort et qui s'échappait d'un coup? Était-ce la soudaine réalisation de toutes ces années passées? La tristesse devant l'inévitabilité du temps qui s'enfuit? Je l'ignore. Mais ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, au milieu de ce ballet dantesque, de toute cette souffrance entre ces civières ensanglantées desquelles montaient des gémissements, le des ventilateurs mécaniques, les cris des alarmes, j'ai pensé à toi, Donald. Mon rêve s'était réalisé. Enfin, je jouais à toi. Pour vrai. Alors, sur la plaine désertique de ce pays torturé, je t'ai remercié, Donald. Bientôt, je te rejoindrai. Je t'inviterai alors à entrer au Valhalla. Oh, je le sais, tu n'es pas militaire, mais... je parlerai aux gars et ils feront une exception, j'en suis certain. Salut, Donald. C'était « J'ai été Donald Sutherland », un texte de Marc Dauphin, paru le 25 juin 2024 dans La Presse.